Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va tout de suite s'intéresser à la baisse du jour dans Estelle Midi et c'est celle du taux de fécondité dans le monde en 2050. Le taux moyen devrait se situer autour des 1,8 enfants par femme, en dessous du seuil de renouvellement de la population. Quasiment tous les pays sont touchés, Rémi, mais certains plus que d'autres.
Oui, en 2100, 97% des pays du monde seront concernés d'après cette étude. Et seuls 6 pays parviendront à atteindre le taux de 2,1 enfants par femme, taux nécessaire pour assurer le renouvellement des générations. Ces pays, ce sont la Somalie, le Niger, le Tchad, le Tadjikistan, les îles Tonga et les îles Samoa. D'après les projections de l'étude, même si la France possède l'un des taux de natalité les plus élevés d'Europe, le pays ne parviendra pas à dépasser ce taux de 2,1 enfants par femme. Dans le monde, d'ici 2100, la moitié des enfants naîtront en Afrique subsaharienne. L'étude précise toutefois que rien n'est figé. Tout dépend en fait des politiques d'encadrement des naissances dans chaque pays, mais aussi des niveaux d'éducation des femmes, de la contraception ou encore des politiques de soutien à la natalité. Et l'étude conclut, si les grandes tendances se confirment, l'équilibre démographique sera chamboulé, tout comme l'économie mondiale et forcément les flux migratoires.
Bien sûr. Alors, la baisse de la fécondité mondiale, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, Thierry Moreau ?
C'est factuel. Donc je pense que de toute façon, on sera obligé de faire avec, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle.
Alors, on peut essayer de lutter contre.
Mais d'important. Alors, moi, je crois que les politiques natalistes n'ont jamais donné des résultats absolument formidables dans les pays qui ont expérimenté là. Le fait de faire des enfants, ça reste une liberté individuelle, enfin individuelle de couple, enfin en tout cas, parce qu'un enfant, ça se fait à deux. On voit aussi quand on liste un peu toutes les raisons pour lesquelles les gens font moins d'enfants, il y a plein de raisons très très objectives, hein. Le fait de pas avoir d'argent déjà, d'être chômage, d'avoir un avenir sombre, d'être inquiet pour le climat, pour le climat, les politiques natalistes qui sont de plus en plus rognées globalement dans les pays et qui donc je pense je l'ai dit tout à l'heure ne sont pas efficaces. Il y a un individualisme aussi qui est très présent aussi dans nos sociétés actuelles, la vie professionnelle dans laquelle on s'épanouit, du coup on pousse un peu le fait de faire un enfant, puis au bout, au final, on n'en fait pas forcément. Tout ça, je crois que... Et puis, une baisse de la pression sociale aussi. Faut pas oublier que dans nos sociétés, on avait une pression sociale absolue pour être marié, ensuite fiancé, marié, faire des enfants. Il y avait une espèce de... Ça se perd aussi. Voilà. Après, la conséquence...
Moi,
je me rappelle, il y a 20 ou 30 ans, ou même quand j'étais à l'école, on se disait, la population va grandir et on pourra plus nourrir, on pourra plus loger parce que ça va exploser.
Oui. On a vu que ça allait.
Les démographes expliquent qu'au contraire, on va vers un système inverse. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y aura moins de gens à nourrir.
Ah, super. Mais la société ou la vie, c'est pas juste se nourrir. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça. Et moi, personnellement, de voir une société de vieux, de voir qu'en fait, y aura plus d'enfants. Les enfants, c'est la vie.
Mais ce sera cyclique.
Et qui est-ce qui innove? Qui est-ce qui crée? Ce sont les enfants, ce sont les jeunes. Une société où il y a plus de jeunes, c'est une société qui meurt.
Ce qui détruit aussi, c'est l'homme.
D'abord, il y a des pays et des sociétés et des endroits du globe où la natalité est importante, où il y a des viviers de jeunes personnes qui seront
là. C'est les pays les plus soumis au dérèglement climatique, donc c'est formidable. C'est quand même un problème.
Viens chez nous. On a créé les propres conditions.
Façon, on sera soumis, qu'on le veuille ou non, à ces migrations climatiques. Les pays les plus en problème aujourd'hui, c'est le Japon. La France est plutôt pas mal lotie.
On est très bien lotie. On est en dessous du seuil de renouvellement.
C'est pire.
Et même si à l'heure actuelle, ça peut paraître de la politique du tout, mais pour abonder dans le sens de Thierry, si nos sociétés deviennent... On parle de l'horizon 2100, donc c'est quand même... Bon, c'est demain.
On sera tous morts.
Mais si nos sociétés deviennent trop vieilles, on aura besoin de jeunes. Et on fera venir des jeunes de pays étrangers.
Ils viendront sans doute quoi qu'il arrive.
Il y aura une immigration choisie.
Mais alors, si c'est le modèle de société que vous voulez, c'est-à-dire qu'on fait plus d'enfants et on fait venir des enfants d'ailleurs, c'est génial.
C'est factuel.
Mais moi, je trouve ça grave, en fait, de ne pas se dire, peut-être qu'il y a des politiques qui pourraient changer ça.
J'adore la Bretagne. Toi aussi. J'adore la Bretagne. J'ai pas envie que le rivage breton soit envahi par les eaux. Mais c'est ce qui va arriver.
C'est intéressant parce qu'on revient du coup à la conversation qu'on avait en début. Les gens nous disent, les écologistes, vous êtes catastrophiques, vous voulez détruire. Voilà les choses auxquelles on doit s'attendre parce que nous n'avons pas agi.
avant.
Au moment où il fallait agir. Ça fait des dizaines d'années que les écolos tirent la sonnette d'alarme. Maintenant, il faut admettre qu'il y a des choses qui vont changer. Mais il ne faut pas être catastrophiste non plus. Nous, moi, je fais partie des optimistes qui disent que, et ce n'est pas juste moi, Loumière Lapré qui le dit, c'est les scientifiques qui disent qu'il y a encore de la marge pour s'adapter. C'est pour ça qu'il faut le faire maintenant. Et c'est pas juste pour saouler tout le monde parce qu'on a des espèces de tocades de gens qui veulent absolument faire de l'écologie punitive. L'écologie punitive, oui mais attends, l'écologie punitive c'est quand il n'y aura plus d'eau dans ton robinet. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens en France qui ne veulent plus faire d'enfants. Maintenant, sur la question... Si, c'est une des raisons...
Mais la principale raison c'est le pouvoir d'achat. Donc
mais c'est une des raisons parce que ça participe à l'idée qu'il y aura un avenir sombre. Moi là je suis pas tout à fait d'accord avec Thierry dans le sens où je pense que des politiques natalistes ça peut aider. Si jamais moi par exemple j'ai 31 ans, je suis en train de me poser la question d'avoir des enfants, etc., je suis indépendante. C'est un vrai frein pour avoir des enfants.
Oui, c'est pour ça que je parle du pouvoir d'achat.
Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où, et c'est là que je pense que on peut créer des sociétés qui rendent le fait d'avoir des enfants plus facile. Mais ça, c'est au niveau de la France. Tu sais, quand tu as envoyé la question ce matin, quand j'ai reçu les sujets, je me suis dit, en fait, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas de débat dépolitisé et dépassionné dans ce pays sur concrètement qu'est-ce que ça va vouloir dire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui appuient sur ce sentiment de submersion, de menace, de « Oh mon Dieu, notre société va disparaître » pour faire leur miel politique. Il y a des gens qui nous disent « Ah de toute manière, du coup, il n'y aura plus personne pour financer la sécu, donc il faut qu'on fasse des économies, etc. » En réalité, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on mette autour d'une table des démographes, des économistes, des représentants de la société civile et qu'on puisse se dire, voilà les chiffres, voilà ce qu'on sait qui va se passer et voilà ce que ça va vouloir dire pour nous. Et aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir ce débat parce qu'on manque de faits, de chiffres.
Alors, ce qui est factuel, c'est que moins il y aura d'enfants, je veux dire, plus ta retraite, personne ne te la paiera, ça c'est sûr.
Mais ça veut dire
moins d'enfants, ça veut dire un temps de travail allongé, c'est-à-dire que tu devras travailler plus longtemps pour avoir une retraite,
dans
par exemple,
réduite. Dans le système actuel. Dans le système, on peut imaginer d'autres sources.
Le système actuel, il s'appelle par répartition, il n'est pas si mal.
Pour l'instant, on va être sur
une conversation.
Sur le système actuel, et moi je suis désolée, encore une fois, je ne peux pas me réjouir. Alors, ok, il y a tout ce qui est la nourriture, l'alimentation, etc. Mais moi, je ne peux pas, je n'arrive pas à me réjouir d'une société sans enfants. Je suis désolée, et Rémi parlait du Japon. Le Japon se meurt parce que justement, il n'y a plus d'enfants. C'est une catastrophe dans
le pays. Je crois que ça ne résout personne.
C'est une catastrophe.
Hein.
Les gens sont obligés. Au Japon, tu vois des gens qui te tiennent la porte, ils ont 85 ans. Mais moi, si c'est la société que vous voulez, eh ben gardez-la. Moi, en tout cas.
Non, mais personne ne dit ça.
Mais je suis d'accord avec toi.
Non, mais vous trouvez ça formidable.
Mais non, mais personne ne trouve ça formidable.
Non, mais Estelle, comment changer les choses?
En ayant des politiques natalistes qui soient peut-être des politiques en aidant les femmes, peut-être, en tout cas je te parle dans les pays développés, je te parle en Europe par exemple, en aidant les femmes comme ça se fait notamment, même s'ils n'ont pas des taux meilleurs que nous, mais en Europe du Nord, en faisant que effectivement quand tu es une femme, par exemple, tu puisses avoir des enfants et après continuer ta carrière, etc., que ce soit mieux fait, que tu puisses avoir des gardes d'enfants sans problème, que ça te coûte pas aussi cher d'avoir un enfant. Et peut-être que si on avait ces politiques là alors que maintenant, quand tu as une politique nataliste, on te traite de facho, et ben peut-être que si on avait ces politiques-là, et ben peut-être que les femmes feraient plus d'enfants. Mais voilà, c'est mon avis. Fred Hermel.
En fait, tu as dit tout ce que j'avais envie de dire.
Ah pardon, excuse-moi.
Non, mais je suis ravi de pas être, je vais pas me sentir tout seul sur ce plateau. Alors, je vais répondre à la question. Baisse de natalité, bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle pour les pays pauvres, mauvaise nouvelle pour les pays riches. Parce que c'est ça le truc. Voilà, c'est les pays où on a du mal à nourrir les gens, où il y a beaucoup d'enfants, et c'est les pays où on a les moyens de nourrir les gens, où il n'y a pas assez d'enfants.
Non, 97% des pays du monde seront concernés en 2100.
Oui, alors, mais
il n'y a pas 97% de pays développés.
Regarde la situation aujourd'hui. Pays,
mais il n'y en a que 6.
Oui, bien sûr.
Mais la situation aujourd'hui, excuse-moi, tu regardes aujourd'hui les taux de natalité en Afrique et en Europe. Excuse-moi.
Non, il y a un certain nombre de pays comme la Chine, par exemple, et un certain nombre de pays africains où la natalité.
Attends, mais la Chine, pourquoi?
Parce qu'ils sont en chute libre.
Au Maghreb.
Excuse-moi, mais la Chine, il y a eu la politique de l'enfant unique, il y avait trop d'enfants. Ça a été une dictature. Ils ont.
La natalité est en chute libre.
Pas tout en même temps.
Mais non, mais je peux finir ma phrase quand même.
Vas-y.
Je viens de commencer.
Vas-y, Fred.
Excuse-moi. Ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'il y a eu une imposition dictatoriale de réduction des naissances. Alors, excuse-moi, on n'en est pas là, nous. Nous, on a un vrai problème de natalité. Voilà. Et on a les moyens de nourrir les gens, mais on ne fait pas d'enfants. Des pays qui n'ont pas les moyens ont plein d'enfants.
6.
Aujourd'hui.
Bon, ok.
Non, aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, Rémi, attends, mais me fais pas passer pour un idiot.
Mais eux-mêmes sont en train de faire...
Je peux terminer.
Bon, vas-y, termine.
Je veux dire, je suis d'accord avec Estelle, c'est un drame de ne plus faire d'enfants. C'est un drame. Parce que la société fait tout pour ne pas faire d'enfants. Quand Macron a parlé de réarmement démographique, il s'est fait défendre par tout le monde.
Oui, comme si la formule était pas
claire. Oui, enfin, mais comme
pardon,
si
hein.
Mais même s'il avait utilisé politique nataliste, on l'aurait accusé de dire de vouloir utiliser le corps des femmes pour faire des enfants. C'est ça le problème.
Mais nous, on lui demande.
C'est qu'on ne met plus en valeur dans notre société les enfants. Parce qu'il y a aussi une volonté de dire c'est pas grave, on va faire venir des gens de l'extérieur.
Mais qui dit ça? Mais Fred, qui dit ça? Cite-moi des gens qui disent ça.
Pas du tout. On dit que ça va arriver.
Mais donc, mais qui dit c'est souhaitable?
On dit que ça va
personne
arriver à cause des dérèglements climatiques, qu'il y aura des migrations.
Pas que ça. Il y aura une promotion de l'immigration.
Mais qui fait ça?
Qui ne seront pas pourvus parce qu'on n'aura pas assez d'enfants.
Tu vis qui? Qui dit ça?
Mais tous les économistes.
Tu auras forcément une immigration choisie, mais c'est une bonne ou une mauvaise chose.
Mais je veux dire, là, on a l'impression, dans ce que tu dis, on a l'impression qu'il y a un espèce de complot mondial qui veut remplacer les enfants français par des enfants immigrés.
Non, mais Lumière, c'est pas ce qu'il te dit. En fait, ce qu'il te dit, ce qui aujourd'hui est assez paradoxal, c'est qu'effectivement, dans les sociétés où tu as globalement plutôt à manger, etc., on ne fait plus d'enfants.
Oui, c'est la transition démographique.
Dans les pays aujourd'hui qui sont les plus touchés par le dérèglement climatique, là, tu as beaucoup d'enfants. Donc, c'est paradoxal.
Mais c'est paradoxal parce que pourquoi aussi? Parce que il s'avère que en Europe on est bien lotis et qu'on va être les pays parmi les moins touchés par le dérèglement climatique et que les pays les plus touchés sont dans les suds et que dans les suds c'est là où les gens sont les plus pauvres. Mais c'est là que Rémi a raison. En fait, c'est vraiment une phase. La transition démographique, il y a 200 ans, on n'en était pas au même stade en France. Et puis dans 100 ans, enfin en l'occurrence là dans 80, la totalité des pays mondiaux auront terminé leur transition démographique. Donc c'est important de l'avoir en tête.
C'est que tu sais très bien que l'avancée des droits des femmes produit naturellement, et c'est bien
sûr,
moins d'enfants.
Bien sûr, parce que ça crée un accès à la contraception.
Mais c'était normal d'avoir des familles de 10 enfants.
Bien sûr.
Quasiment plus personne n'avait eu.
Et d'ailleurs, en 2100,
aux États-Unis, le taux de fécondité en 1950, c'était 5 enfants par femme.
Bien sûr, mais là aussi, largement tiré par la pauvreté. Parce qu'en effet, plus t'es riche, ça veut dire que plus t'es éduqué, plus tu fais des études longues et t'as une carrière qui rend difficile le fait d'avoir des enfants et plus tu peux choisir une contraception.
Ben exactement.
Mais c'est alors, sûr. Justement, on a Gwen en ligne qui nous appelle de Toulouse et qui est éducatrice sportive. Bonjour Gwen.
Bonjour Estelle.
Bonjour.
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 Et Gwen, alors vous avez 45 ans et vous avez fait le choix, Gwen, de ne pas avoir d'enfants.
En effet. J'ai fait ce choix assez tôt, finalement, déjà par une
carrière. C'est ça, c'est un choix, c'est pas parce que vous avez trouvé personne, choix.
J'ai mon compagnon, alors on avait deux éducations différentes avec mon compagnon. C'est vrai que moi, en venant du sport aussi, j'ai ma carrière sportive, mon métier dans le sport, qui a peut-être aussi retardé le fait que j'ai des enfants. Mais j'ai une famille qui m'a laissé le choix, déjà. Mmh. Une maman et une grand-mère même qui nous ont, bon, moi j'ai deux sœurs, hein, nous sommes trois, qui nous ont toujours expliqué que notre vie de femme n'était pas exclusivement attachée au fait d'être maman et qu'on pouvait être des femmes accomplies sans être mère et que ça demandait des sacrifices.
Elles vous ont pas mis la pression, quoi.
Voilà, exactement. On n'a pas eu de pression familiale. Alors que mon compagnon, lui, venant d'une famille espagnole catholique, lui, par contre, il n'avait quasiment pas le choix. Voilà. Finalement, il s'est rallié un petit peu à mon choix de vie à moi.
Mais Gwen, c'est une question indiscrète que je vais vous poser, mais pourquoi ce choix de ne pas avoir d'enfant?
Mais écoutez, parce que je vois que ma vie était bien. En fait, j'ai une belle vie. J'ai une vie où je peux faire des choix de budget, par exemple, pour mon travail. Mm-hmm. Je n'ai pas de problème financier. Et c'est vrai que le fait de m'assumer déjà moi toute seule, je trouve déjà que c'est bien, c'est extraordinaire.
C'est pas tous les jours facile.
Voilà. Donc je me rends heureuse, heureux après d'autres, des enfants assumés. C'est quand même lourd, faut le dire. Donc ce choix. Ouais. Pourquoi ce choix?
Et manifestement, vous êtes très très heureuse comme ça. Jamais de regrets, Gwen ?
Très bien et pas de regrets. Voilà, c'est surtout ce que j'aimerais dire en fait. C'est que, bien sûr. Il faut le dire. Alors, il y en a qui le disent de plus en plus qu'elles n'ont pas de regrets d'avoir des enfants, mais ça se dit quand même de plus en plus que c'est difficile d'avoir des enfants, qu'il faut assumer, financièrement.
Ah bah, c'est pas facile tous les jours, ça, on va pas vous mentir.
Hein. Tous les jours, voilà. Cette parole-là se libère. Mais celle de dire, ben, j'ai pas d'enfants et vraiment j'assume. Là, vous voyez, avec mon compagnon, on voyage énormément. On bouge du jour au lendemain, même pour mon travail. Moi, je peux aller à droite, je peux aller à gauche. Oui. Je peux ne
avec
pas
des enfants, ça se fait aussi.
Ça se fait, mais peut-être
mais c'est
avec
un choix.
Plus de pression.
Ouais. Voilà. Ça, voilà. Vous avez entièrement raison.
Mais le débat est très intéressant, je trouve. Le débat que vous avez sur le plateau, le débat qu'on peut avoir dans la société, il est passionnant.
Exactement.
Et il faut qu'on l'ait. Dans tout ce que j'ai entendu, il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est vrai qu'une politique nataliste, oui, d'accord, mais ça coûte énormément d'argent.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, on est en train de dire qu'attention, la France,
primordial.
On est en train d'être sous l'eau parce que les dépenses sont trop énormes, il n'y a pas assez de rentrée d'argent. Attention, une politique nataliste, ça coûte de l'argent. Mais
ouais, mais alors, Gwen, avoir une société de vieux, ça coûte encore plus cher. Parce que.
Ça coûte,
a priori, vous voyez, tout ce qui est santé, tout ce qui est retraite, c'est plutôt les personnes âgées. Et donc, en fait, si vous n'avez pas de jeunes, vous n'avez personne pour payer.
Ah, puis on est plus productif quand on est vieux.
Encore une fois, le système, c'est comme ça. Moi,
exactement.
C'est vrai que je transpose ma qualité de vie personnelle à ce que serait la qualité d'une société avec moins d'enfants.
Mais je comprends. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelé, Gwen, pour nous expliquer votre choix. Et vous avez l'air très, très heureuse comme ça. Gwen, on a des messages également sur l'appli RMC, Rémi.
Oui, notamment ce message de Nicolas qui nous dit « La baisse de la natalité dans le monde, moi, personnellement, je pense que l'on peut s'en réjouir. 8 milliards d'habitants sur cette planète, ce n'est pas possible. Je peux comprendre qu'il y ait des soucis dans les pays occidentaux, puisqu'on a une forte baisse de la natalité. Mais malgré tout, il faut penser avant tout global à la planète et pas seulement à nous.
Alors Gwen le disait il y a un instant, le débat est passionnant et ça tombe bien parce qu'on a un invité passionnant, c'est Gérard François Dumont qui a déjà été avec nous pour parler de ce sujet. Il est démographe et professeur à la Sorbonne, président de la revue Population et Avenir. Bonjour Gérard François Dumont.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a vu ces chiffres assez alarmants d'ailleurs sur la baisse de la fécondité dans le monde. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Bien, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
Ah.
La bonne nouvelle, c'est que la transition démographique avance dans les pays qui sont les moins développés de la planète, puisqu'en fait, la baisse de la natalité, ça veut dire qu'il y a des progrès significatifs dans la baisse de la mortalité infantile, dans la baisse de la mortalité des enfants et des adolescents, et dans la baisse de la mortalité maternelle, c'est-à-dire des femmes en couche ou par suite de couche. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs le parcours qu'a suivi l'Occident, mais il y a plusieurs décennies. Et c'est en même temps une mauvaise nouvelle dans les pays où on a un vieillissement de la population qui va se traduire par des possibilités de création de richesses qui sera forcément moindre et avec des difficultés de solidarité entre les générations. Je viens d'écouter votre auditrice qui ne souhaite pas d'enfants, ce qui est tout à fait son droit. Je pense quand même qu'elle profite des enfants des autres puisque tous les services qu'elle demande à la société, c'est bien d'autres personnes qui y rendent et ce sont les enfants des autres inévitablement. Donc en fait, si vous voulez, pour simplifier, dans la situation actuelle, nous avons trois types de pays. Il y a des pays dont la population diminue déjà, donc c'est la Chine, c'est le Japon, c'est la Corée, en Europe c'est la Roumanie, la Bulgarie par exemple. Vous avez des pays qui continuent d'avoir une croissance démographique mais par effet de vitesse acquise, je pense notamment à l'Inde, dont la croissance n'est pas due à une fécondité très élevée, puisque la fécondité moyenne en Inde maintenant, elle est abaissée au niveau du seuil de remplacement. Et puis nous avons des pays essentiellement, l'Afrique et puis quelques pays d'Asie comme l'Afghanistan, où malheureusement les conditions de mortalité sont encore terribles, donc la natalité n'a pas encore baissé suffisamment pour s'adapter à une mortalité abaissée.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Gérard François Dumont, pour inverser la tendance et faire que les pays, notamment les plus développés, continuent de faire des enfants ?
Alors tout simplement, on oublie de considérer que toutes les politiques ont des effets, que ce soit la politique sociale, la politique économique et aussi la politique familiale. En revanche, je suis en désaccord total avec le besoin d'une politique nataliste, parce qu'une politique nataliste, ça veut dire simplement qu'on encourage les gens à avoir un enfant. Ce qu'il faut, c'est une politique familiale, c'est-à-dire une politique qui permette d'accompagner les personnes pendant toute la période d'éducation, et cette période, elle est longue. Or, toute l'histoire montre qu'effectivement, les politiques familiales, elles ont des effets. Et nous le savons tout particulièrement pour la France, puisque la France a conservé effectivement une fécondité relativement élevée en Europe, tant qu'elle a eu une politique familiale significative. À partir du moment où, dès les années 2010, on a décidé de brader la politique familiale, automatiquement, moi j'avais annoncé dès 2014 que la fécondité avait baissé, et elle a baissé. Et lorsque vous regardez au fil des décennies l'évolution de la fécondité en France, vous voyez qu'il y a des hausses et des baisses selon les années, et à chaque fois, c'est la suite de mesures positives ou de mesures négatives de politique familiale. Donc clairement, le problème, il est quand même là, sachant que une femme ou un couple qui souhaite un enfant, il a toujours trois problèmes à résoudre. Hein, le premier problème, c'est est-ce que ça va pas abaisser trop mon pouvoir d'achat ? Donc ça suppose évidemment des allocations familiales, etc. Deuxième problème, est-ce que je vais avoir un logement assez grand pour cet enfant que je souhaite ? Or, vous savez ce qu'il en est.
Ce qui revient au même que le pouvoir d'achat, d'ailleurs.
Voilà, la politique malthusienne du logement conduit aujourd'hui à une diminution du nombre de constructions de logements absolument phénoménale. Et troisièmement, est-ce que je vais pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale ? Or, en l'espèce, compte tenu de la dégradation des ressources données aux communes, notamment, eh bien, on a beaucoup moins construit de crèches que ce qui avait été prévu.
Exactement.
Et donc, on est effectivement dans cette situation d'une dégradation de la possibilité de concilier les deux. Donc, vous additionnez ces trois éléments. Et donc, il était inévitable que la fécondité baisse en France. Et du coup, les Français ont perdu confiance dans leur politique familiale.
Complètement.
Donc, il faut retrouver, effectivement...
Une certaine confiance.
Confiance dans la politique
ça, c'est pas gagné.
Après, pour tempérer le débat...
Si ça peut être, si vous voulez, moi, je pense que la confiance, on peut la retrouver rapidement. Mais ça suppose une volonté politique de remettre en place des mesures qui avaient très bien marché. Elles avaient tellement bien marché que le monde entier venait voir comment la France en sortait pour avoir une aussi bonne politique.
Après, pour tempérer le débat, on peut quand même juste dire que l'ONU retient trois scénarios. Un scénario de baisse, on est à 7,9 milliards aujourd'hui, 7,8 milliards. Un scénario à 7,3 milliards, un scénario à 10,8 milliards et un scénario à 15 milliards. Et ils n'ont pas choisi de scénario. Il peut y avoir ces trois scénarios-là. Donc,
et ça posera d'autres questions si on est 15 milliards sur la planète Terre.
Hein.
Et surtout avec notre niveau de vie à nous.
Merci beaucoup, en tout cas, Gérard François Dumont, d'avoir été notre invité sur ce débat passionnant et qui déchaîne les passions. Rémi, on a le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Oui, la baisse de la natalité, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Enfin, une bonne nouvelle, oui. Alors, pas d'accord. Pour je vois mal parce que j'ai juste alors c'est pas 59% pardon j'avais une grosse prise juste devant mon écran 59% d'entre de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux estiment que c'est pas une bonne nouvelle quoi.
Et je ne reste pas au plaisir de vous lire ce message de Maëva qui nous appelait de Dune dans le Tarn-et-Garonne. On n'a pas eu le temps de l'apprendre. Maëva, elle est sans profession. Elle a un enfant de 4 mois. Elle dit je ne pense pas en faire plus professionnellement. J'ai eu beaucoup de freins à cause de ma maternité, de freins dans ma carrière.